On a tous une histoire avec Jean d'Ormesson, un souvenir de télévision, de radio, de salon, un mot d'esprit qu'il avait lancé et qu'avec le temps on a fait sien, une anecdote de tournage, d'entretien. La mienne n'est pas si ancienne, mais elle lui ressemble terriblement. Il faut se l'imaginer, ce délicieux petit monsieur en train de rouspéter parce qu'il montait mes escaliers. À chaque palier, on voyait de ses narines sortir un peu plus de fumée jusqu'à ce que la colère lui montonnait. Le voici dans l'entrée, 6 escaliers plus tard, je suis pas content, regard noir, refusant de faire l'émission. Il était terrible quand il était en colère. Et moi, tout penaud, je lui dis, que puis-je faire que pour que vous alliez mieux? Il me répond du tac au tac, je veux me reposer, un lit. Et moi de le guider, du coup, vers ma chambre et de le border, littéralement dans mon lit. Sieste improvisée, Jean d'Ormesson dans mon pieu, toute l'équipe terrorisée dans la petite cuisine, jusqu'à ce que 40 minutes plus tard, je me décide à aller prendre de ses nouvelles. Je frappe à la porte de ma propre chambre. Jean, oui, j'entr'ouvre la porte et voici qu'il se retourne dans mon lit pour me lancer dans un clin d'œil et un sourire que je n'oublierai jamais. Ça va beaucoup mieux.
France Inter.
Comment est-ce que vous envisagez la fin ? Jean d'Ormesson, vous, comment vous y pensez ?
Je n'y pense pas beaucoup, d'ailleurs. Vous savez, mourir, ça ne doit pas être très agréable. Mais être mort, c'est délicieux. C'est délicieux. Plus de chagrin d'amour, plus de contravention, plus d'impôts, plus de télévision. Quelle merveille !
Il paraît que vous avez déjà pensé à l'épitaphe.
Il y avait une épitaphe qui m'avait beaucoup plu. Qui était l'épitaphe de Crillon, je crois,
ouais.
Qui était le compagnon d'Henri IV. Le roi l'aimait, les pauvres le pleuraient.
Si on vous proposait de tout recommencer, qu'est-ce que vous diriez ?
Ah, je refuserais. J'ai beaucoup aimé la vie, mais ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle s'achève. Heureusement, nous mourons. Le monde est beau parce qu'il s'achève.
C'est l'immortel qui dit ça ?
L'immortalité, c'est un cauchemar.
Et vous êtes immortel, vous êtes académicien.
Oh, vous connaissez le monde Cocteau, nous sommes immortels. Pour la durée de notre vie, après nous nous changeons en fauteuil.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, émission spéciale ce matin jusqu'à 10h. En hommage donc à Jean d'Ormesson qui nous a quittés cette nuit, parce qu'on a envie avant tout d'entendre sa voix inimitable, son sourire dans la voix, quel que ce soit ce dont il parlait. On va commencer par entendre cette archive d'il y a 2 ans à l'occasion de la parution d'un recueil de ses chroniques choisies et rassemblées dans une grande anthologie intitulée « Dieu, les affaires et nous ». Flashback. Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est un spectacle pour vous, la politique.
Écoutez, je comprends très bien les critiques qu'on peut faire à cette formule. Évidemment, le politique n'est pas un spectacle pour Général de Gaulle, pour Churchill, pour les gens que j'admire. Mais aujourd'hui, avec la radio, avec la télévision, comment voulez-vous que ce ne soit pas un spectacle ?
La question c'est, à force d'en faire un spectacle, en fait, il paraît qu'on ne respecte plus le fait politique, la fonction politique, les hommes et les femmes de pouvoir.
Oui, c'est vrai, c'est évident qu'il y ait une rupture entre les gens et les politiques, c'est évident. Pour ma part, la politique n'est qu'un spectacle, parce que la politique m'est tout à fait étrangère. Vous savez, l'idée que qu'on a raison et que les autres ont tort est une idée qui me paraît folle. Mais c'est ce que pense la politique. Un politique pense forcément, j'ai raison, les autres ont tort. Ça me paraît absurde. Donc je ne fais pas de politique, mais le spectacle de la politique m'a passionné.
Vous êtes en train de me dire que vous n'aimez pas la politique, Jean d'Ormesson ?
Non, j'aime pas beaucoup la politique.
C'est étonnant quand même.
L'idée d'en faire ne m'a jamais traversé l'esprit.
En revanche, vous écrivez sur la politique depuis longtemps.
Oui, parce que c'est un spectacle passionnant. C'est le spectacle... Quel spectacle est-ce ? C'est le spectacle de l'histoire en train de se faire.
C'est à l'observateur, justement, de l'histoire en train de se faire, de la vie politique depuis plus d'un demi-siècle que je m'adresse ici. Qu'est-ce qui a changé ? Pour vous, c'est quoi la plus grande différence entre les hommes politiques d'hier et ceux d'aujourd'hui ?
Oh, bah, mon cher Augustin, quelle est la différence ? C'est vous. C'est la radio, c'est la télévision. Comment voulez-vous que ça ne joue pas ? C'est évident. Vous venez de parler d'un film sur la vie privée de l'Élysée, c'était inimaginable avec le général de Gaulle. Inimaginable. La rupture vient évidemment de la radio et surtout de la télévision.
Les chroniques, originellement dans le Figaro, que vous publiez sous forme d'anthologie aujourd'hui, Jean d'Ormesson, elles recouvrent plus de 30 ans d'actualité politique, française et internationale. Je le disais, vous faites partie depuis toujours presque du paysage intellectuel français. C'est quoi pour vous le rôle de l'intellectuel sur la scène politique?
Vous savez, l'intellectuel, il a le droit de tout faire. Il a le droit de ne pas s'occuper du pouvoir. Vous rappelez Théophile Gautier, le canon gronde, la pluie tombe. Moi, j'écris Émoé Camé. Il y avait quelque chose qui s'appelait, ça a l'air inimaginable aujourd'hui, qui s'appelait la Tour d'Ivoire. Les écrivains avaient tout à fait le droit de ne pas s'engager. Et puis, il a fallu s'engager. Il était très difficile, à mon avis, pour un écrivain de ne pas s'engager en 1940, en 35, 33, 36, c'était inimaginable de ne pas s'engager.
Mais les intellectuels, précisément, ils ont changé aujourd'hui? Parce que c'est un débat qui occupe beaucoup les Français en ce moment. Où sont les intellectuels et qui sont-ils?
Attendez, ce qui est le plus intéressant, c'est que les intellectuels ne cessent de changer. Regardez, il y a des gens pour qui j'ai la plus haute estime et quelquefois de l'admiration, mais qui ont quand même énormément changé.
Pensez à qui ?
Solers a formidablement changé. Il était maoïste, il a été catholique. Enfin, il a changé énormément. Finkielkraut a énormément changé. Il le dit lui-même très drôlement. Il disait il y a 50 ans, l'Académie n'aurait pas voulu de moi parce que j'étais juif. Maintenant, ils ne veulent plus de moi parce que je suis réactionnaire.
Alors, Finkielkraut, donc c'est donc qu'il y a aussi des choses qui changent autour.
Si vous croyez que Debré n'a pas changé dans son livre merveilleux, Madame H, on voit bien combien il a changé. Et Onfray, ce qui ne passe pas son temps à changer.
Tiens, pense qu'on parle d'Onfray, tiens. On va l'écouter.
Défendre la liberté, c'est pas être un libertarien. Vous savez que le mot signifie quelque chose de très précis. Considérer que la totalité des flux d'immigration du monde ne peuvent pas se trouver concentrés dans les pays d'Europe, c'est pas ne pas aimer les étrangers. Et ça peut être une façon de défendre son économie et son peuple en disant qu'il faut que nos ouvriers puissent travailler, que les familles puissent avoir de l'argent parce qu'il y aura un travail, etc., etc. C'est pas détester les étrangers, ça. Je tiens plus à la liberté qu'au jugement de mes contemporains. Et j'estime qu'on doit pouvoir penser la question de l'immigration sans savoir que Marine Le Pen dit ceci ou dit cela et qu'il ne faut pas penser comme ça puisque Marine Le Pen penserait ceci ou penserait cela. Ouais. Mon modèle à moi, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la liberté, c'est pas Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Hein.
Michel Onfray, le 27 août dernier à la radio-télévision suisse. Michel Onfray qui catalyse le débat politique aujourd'hui, Jean d'Ormesson, surtout sur la question de l'accueil des migrants. Michel Onfray qui se défend, vous l'avez entendu, d'être hostile aux étrangers, mais qui a des réserves sur l'accueil des réfugiés au nom de la liberté. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, vous, Michel Onfray?
Écoutez, c'est très intéressant. J'ai quelquefois, je ne le connais pas. Je connais un peu Finkielkraut, je connaissais pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens que je connais pas. Je connaissais pas Régis Debré, que j'admire beaucoup. Je ne connais pas Onfray, et quelquefois, ils me donnent le tournis, ces intellectuels. Parce que, quand même, leurs changements de pied sont quelquefois un peu frappants, un peu rapides. Au fond, j'ai très peu changé. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu ennuyeux. Qu'est-ce que je suis? Je suis un modéré. Vous croyez que je suis content d'être un modéré? C'est mortel d'ennui, les positions comme les miennes.
Donc ça fait de Michel Onfray quelqu'un d'excitant, quelqu'un de...
Oui, il est beaucoup plus excitant. Régis Debré a eu quand même une existence passionnante.
Mais la pensée de Michel Onfray aujourd'hui, son propos, ça vous excite, Jean d'Ormesson?
Oui, ça m'excite. Il faut d'abord que je la comprenne. Je suis un peu naïf, moi. Je comprends pas toujours très bien les intellectuels.
Il y a un dossier du magazine littéraire ce mois-ci sur les intellectuels justement et ce discours de Michel Onfray, d'Alain Finkielkraut ou de Michel Houellebecq, il est analysé comme le retour des anti-lumières dans la sphère intellectuelle.
Des anti ?
Anti-lumières.
Oui, c'est vrai. Moi qui suis plutôt... Si je me présente comme un homme de gauche, ça vous ferait rire.
Je serais hilar.
Je suis plutôt à droite. Et puis, tout à coup, je me retrouve avec des idées qui tout à coup me paraissent de gauche à côté des intellectuels d'aujourd'hui. Le premier, c'est que je suis un défenseur des Lumières. Un homme dont je suis très proche. Je ne l'admire pas tellement littérairement, mais je suis assez proche de lui. C'est Voltaire, qui n'est plus du tout à la mode. Je crois.
Si, il est plutôt à la mode, Voltaire, là.
Oui,
il cartonne en librairie.
Oui, bon, tant mieux. Je suis peut-être un des rares intellectuels à croire encore au progrès. Je crois au progrès qui est abandonné aujourd'hui, peut-être sous l'influence des écologistes. Moi, je crois beaucoup au progrès. L'idée de droite, je la refuse complètement. L'idée de droite, c'était mieux avant. Cette idée est absurde. C'était pas mieux avant. Avant, c'était beaucoup plus dur, vous savez. Et si les choses étaient comme avant, je ne vous parlerais pas, je serais mort. J'ai évidemment été sauvé par la science.
On se rassure.
Et donc je crois à la science, je crois au progrès, et je crois fondamentalement à une idée qui, je crois, est une idée de gauche, je crois fondamentalement à l'égalité des gens.
Émission spéciale ce matin, en hommage donc à Jean d'Ormesson qui nous a quittés cette nuit. Avant de poursuivre cette archive d'il y a 2 ans à notre micro-place au direct avec au téléphone la ministre de la Culture Françoise Nyssen pour sa première réaction. Bonjour Françoise Nyssen.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder votre parole. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris la disparition de Jean d'Ormesson ce matin?
Écoutez, tout de suite je me suis dit, zut. Encore une voix, encore une élégance, encore une pétillance, et encore un ambassadeur qui s'en va, une parole libre.
C'est ce que vous retenez de lui, vous qui l'avez rencontré à plusieurs reprises?
Oui, tout à fait. Et je relisais l'ensemble des titres de son œuvre, qui à soi seul est déjà une œuvre, regardez, terminée par... Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est pas magnifique, ça?
C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a perdu pour vous, aujourd'hui?
Eh bien justement, cette pétillance, cet esprit libre, il n'avait pas d'idée a priori, il allait avec ses idées, il était dans ses idées, il essayait de réfléchir le monde en fonction de ce qu'il pensait lui, cette liberté, je crois que c'est très très important, et puis ce côté tellement chaleureux, un ambassadeur, juste une petite anecdote, je pense que une maison d'édition que j'ai bien connue, Actes Sud, n'existerait pas s'il n'avait pas un jour défendu avec une passion ce petit livre qui s'appelait Senso de Camille Boito et qui a fait reconnaître ce travail. Donc on lui doit grand, beaucoup.
Mais c'est
les livres en général, les auteurs en général, parce que il aimait les gens et il aimait s'y confronter. Et je pense très fort à sa fille qui poursuit une œuvre magnifique en étant éditrice elle-même.
Héloïse d'Ormesson, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, donc est-ce qu'il est prévu un hommage aujourd'hui, un hommage national, ou est-ce trop tôt déjà?
Écoutez, on va voir ce qu'on va faire, mais en tous les cas, là, on est plutôt sous le... On reçoit et on est dans l'émotion. Et je vais bien sûr me rapprocher de sa famille et il faudra qu'on voit comment... Hier soir, j'étais à un moment de partage autour de Jeanne Moreau et je me disais, tiens, encore une voix, voilà. Jeanne, Jean, des voix qui comptent, qui ont porté et qui résonnent.
Encore une voix. Merci infiniment, Françoise Nyssen, pour votre réaction. Flashback suite de notre interview de Jean d'Ormesson il y a 2 ans, à ce micro. Dieu, les affaires et nous, c'est un autre livre, chronique d'un demi-siècle, c'est le vôtre, le titre de ce livre donc, qui regroupe l'ensemble de vos interventions journalistiques, Jean d'Ormesson, paru dans le Figaro entre 1981 et 2014. 33 ans ça fait, si j'ai bien compté, 33 ans ça fait pas vraiment un demi-siècle.
Oui, si. C'est effrayant, et je suis effrayé par le nombre d'articles que j'ai pu écrire.
Non mais c'est 33 ans, c'est pas plus de 50 ans, un demi-siècle c'est 50
oui,
ans.
Oui, on exagère un peu.
On exagère toujours, j'ai remarqué.
On exagère toujours un peu.
La chronique politique, c'est une vieille tradition chez les romanciers, on pense à Chateaubriand, à Lamartine, à Hugo, Peggy, Zola ou même Sartre, puisqu'on en parlait. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une espèce en voie de disparition, Jean d'Ormesson?
Naturellement, je ne me compare pas aux différents noms que vous venez de citer. Que je fasse partie d'une secte en voie de disparition, c'est trop clair. Je me suis toujours présenté comme ringard, le dernier des Mohicans. J'écris en beaucoup moins bien, J'écris comme La Bruyère ou Mérimée. C'est fini, ça n'existera plus.
Pourquoi est-ce qu'un romancier, à un moment donné, décide d'intervenir dans le champ journalistique? Qu'est-ce qui vous tentait? dans cette tribune.
Il me semble que c'est une, presque une impossibilité de rester à l'écart. Il n'était impossible pendant la guerre de rester à l'écart de ce qui se passait avec les Juifs. C'était impossible. Eh bien, il m'a semblé qu'il était impossible de rester à l'écart de ce qui s'est passé avec les Tibétains, avec les dissidents soviétiques, avec les chrétiens d'Orient, et aujourd'hui, avec ces malheureux migrants et réfugiés. Quelquefois, je me dis, j'ai couru à la défense des chrétiens d'Orient et de ces malheureux coptes décapités par Daesh, et puis je vois que des immigrés meurent par dizaines et par centaines sur les bateaux. On ne peut pas rester indifférent.
Ce qui est sûr, c'est que dans vos chroniques, vous n'hésitez jamais à vous engager frontalement. Par exemple, au moment où Manuel Valls a pris les rênes du gouvernement, vous avez écrit que François Hollande risque de détruire la social-démocratie et de mettre à genoux un pays naguère riche et puissant. Vous aviez raison.
Mais comment c'est évidemment quel talent. Quelquefois, en relisant, je me dis quel talent. Vous savez, ce que je reproche à Hollande, c'est de mettre en danger la social-démocratie. J'aurais très volontiers été social-démocrate, vous savez. Je me sens quelquefois très proche de Rocard, je me sens très proche de Valls, je me sens très proche de Macron. Mais Hollande, avec sa politique, va mettre en danger la social-démocratie.
En même temps, il les a choisis. Mais ça vous est arrivé, surtout, Jean d'Ormesson, de vous tromper? Dans vos analyses.
Énormément. Je me suis beaucoup trompé. J'ai écrit, à la mort de Mao, j'ai écrit un article. J'avais très peur que le Figaro n'apparaisse comme un ennemi de ce grand homme. Et j'ai fait un article peut-être trop élogieux sur Mao, où je disais naturellement qu'il est abominable, mais qu'il était aussi un grand homme. Quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Simon Less, a dit que cet article était ignominieux.
C'est quoi votre plus grosse erreur dans votre vie?
J'ai cru que, quand Khomeini est mort, j'ai cru que le régime iranien allait disparaître. Je me suis trompé. Je me trompe énormément.
On a forcément une responsabilité quand on est lu et entendu par tant de monde, quand on est si populaire aussi. Quelle responsabilité pour vous est-ce que vous avez ?
Il faut faire attention à tout ce qu'on écrit, naturellement, et même à tout ce qu'on dit, et même, il faut faire attention à sa mort.
Vous voyez, comme je suis, moi, je pensais que vous alliez me faire une tirade sur l'éducation, sur la morale, sur l'art et la manière de toujours s'en sortir par le haut. C'est pas grave, cette tirade, on va l'écouter, elle est signée NTM, laisse pas traîner ton fils. Vous êtes sur France Inter avec Jean d'Ormesson. Vous écoutez Boomerang.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain, pour le lendemain s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congés. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le, quand il te parle, écoute-le. Le laisse pas chercher ailleurs, l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge pour entrevoir. C'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'ici avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse,
mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pue dehors, mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme morné. Tu finis borné à force de tourner. Ton cerveau te fait des faux, fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira, tu pour le pas. Quand te disent voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs, la survie est un combat. Base de combat, de coups, de combat, d'esquive, je te perds. Ce putain de ce combat, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Émission spéciale ce matin, en hommage à Jean d'Ormesson qui nous a quittés cette nuit. On le disait avant de poursuivre cette émission, on va entendre à notre micro en direct Franz-Olivier Gisbert, journaliste, éditorialiste, écrivain. Bonjour Franz.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous répondre. Un mot peut-être sur Jean d'Ormesson que vous connaissiez si bien. Quelle réaction ce matin?
Bah, beaucoup de chagrin, bien sûr, mais enfin, bon, on s'y attendait, il s'y attendait, d'ailleurs, il en parlait beaucoup au cours des dernières années, pas seulement dans ses livres, mais en privé, quoi. Il était préoccupé, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il était à un âge aussi où c'était quelque chose de naturel.
Dans une lettre oui. Ouverte, Franz, à Jean d'Ormesson, datant de juin 2015, publiée dans Le Point, vous disiez qu'il incarnait quelque chose de la France. Il incarnait quoi, précisément?
Ah bah, il incarnait beaucoup de choses. C'est-à-dire, et il le savait d'ailleurs, il jouait là-dessus, bien entendu. Il incarnait l'art de la conversation. Il incarnait beaucoup de valeurs du 17e, 18e siècle, enfin une période dans laquelle il vivait, mais aussi même du 19e, regardez son amour pour Chateaubriand. Et il incarnait des tas de valeurs qui sont aujourd'hui, bon, qui vont pas bien, qui reviendront évidemment dans l'histoire des civilisations, elle est composée de cycles de Kondratiev, ça monte, ça descend. Il incarnait aussi l'aristocratie. Et il incarnait l'art le goût du plaisir, il incarnait aussi. Oui, le français tel qu'on le parlait dans les salons d'autrefois. Il incarnait tout ça avec beaucoup d'humour, parce que c'est quelqu'un qui avait toujours de l'humour, qui était extrêmement moqueur, et avec qui on passait toujours des moments merveilleux, parce que un déjeuner avec Jean d'Ormesson, mais c'était un festival de plaisanteries, de citations, voilà, c'était la joie de vivre. Et en plus de ça, moi, ce que vous savez pourquoi il va nous manquer à tous, c'était aussi quelqu'un qui chantait, qui célébrait sans arrêt, pas seulement l'enthousiasme, mais l'admiration. Voilà, c'était ça, Jean d'Ormesson. Et puis alors, en dehors de ça, c'était le plus grand titreur de... Bon, moi, j'ai jamais demandé de titre pour mes livres, mais c'est vrai que je vois les titres des siens, c'était juste incroyable. C'était bien, vous voyez, un livre de souvenirs, voilà. C'était bien, il appelait ça comme ça. Vous voyez comment on danse, en fait, etc. Voilà, c'était... C'est pour ça qu'il va nous manquer d'incarner l'esprit français, il faut dire les choses, voilà, c'est ça.
Merci infiniment Franz-Olivier Gisbert. Merci pour cette réaction. À bientôt, tout de suite on revient sur cette archive d'il y a 2 ans sur France Inter dans Boomerang. Jean d'Ormesson était à ce micro.
Boomerang sur France Inter, flashback.
21 octobre 2015.
Augustin Trapenard.
C'est assez embarrassant parce qu'il est quand même académicien, plus vraiment tout jeune, mais tellement culte, on devrait être impressionné. On n'a qu'une seule envie, c'est d'aller lui faire un câlin en fait. Il est adorable, aussi bien physiquement que socialement. C'est un petit monsieur, impeccable, élégant, cheveux blancs soigneusement peignés, visage aux rides rieuses et aux yeux d'un bleu piscine. Dans mon petit pull marine, j'ai bu la tasse chin-chin. Regardez-le, veste en laine, gris chiné, chemise bleu ciel, pantalon gris foncé, très bien repassé. Jean d'Ormesson est mon invité dans Boomerang pour parler de ces chroniques politiques. Dieu, les affaires et nous, question très importante quand même, Jean d'Ormesson, il faut nous expliquer. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire? Dieu, ben, les affaires et nous.
Pourquoi Dieu est absent partout?
Ben, je me pose la question, ben, vous me connaissez, partout. Je doute de
il
tout.
Il est même présent. Il est même présent dans la politique. Il est même présent dans la politique. Et non seulement Dieu est présent dans la politique, mais le diable aussi. Je crois me rappeler que Churchill avait dit: pour abattre Hitler, je m'allierais même avec le diable.
Il est où le diable en ce moment, en France?
Ben, vous voyez bien, où le mal absolu aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Le mal absolu aujourd'hui, c'est Daesh. Et pour abattre Daesh, il faut s'allier même au diable.
La religion, ça a toujours été un prisme de lecture du monde pour vous?
Non, pas la religion. Dieu, oui. La religion, non.
Vous êtes croyant? Évidemment.
Oh mon Dieu, ne me mettez pas là-dessus, il me faudra une heure et demie pour vous l'expliquer. Je n'ai pas la foi, mais j'ai l'espérance.
Je me disais, en vous lisant, c'est drôle parce qu'on vous a souvent surnommé, Jean d'Ormesson, l'écrivain du bonheur, et on ne peut pas dire que ça saute vraiment aux yeux dans votre livre. Quelques titres de chronique au hasard: Ainsi doux déclin, Le déficit d'espérance, Tout le malheur du monde, Quelques nuances d'espoir, en 1993, je crois, et un peu d'espérance. Rassurez-moi, vous n'avez pas qu'un peu de l'espérance, de l'espoir, Jean d'Ormesson.
Non, enfin, Augustin, vous ne croyez tout de même pas que je suis assez stupide pour penser que le monde, c'est épatant, c'est merveilleux.
Non, pas du tout.
Le bonheur, madame, que tout c'est merveilleux. Le bonheur, j'essaye d'en donner un peu aux gens, mais je sais très bien que le monde est affreusement difficile.
Mais ce qu'on se demande, du coup, c'est comment fait-il pour être aussi gai, pour être aussi heureux?
Mais parce que il faut essayer d'être heureux au milieu des catastrophes.
C'est une philosophie, en fait.
Je dirais presque que le bonheur est une espèce de politesse. On ne va pas emmerder les gens avec son propre malheur. Ils ont déjà leur malheur. Essayons un peu de leur faire oublier.
Pour vous, c'est le rôle de la littérature, précisément, de rendre heureux?
Mais en quoi consiste la littérature? À faire que même un malheur, que même le malheur d'exister, est une certaine forme de beauté.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous rendez plein de gens heureux.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir Jean.
C'est très difficile de faire une chronique humoristique sur quelqu'un qu'on aime bien.
C'est toujours intimidant pour moi de prendre la parole face à vous parce que vous maniez la langue mieux que la plupart des hommes que j'ai rencontrés.
Je trouve que vous avez un jugement très sûr, surtout quand vous dites du bien de moi.
Si j'étais pas moi, j'aimerais encore bien être vous pour votre passion de la langue, de la littérature et surtout votre plaisir de la transmission.
Il nous fait découvrir la poésie et ça tombe bien parce que nous on n'y connaît rien.
Voilà pourquoi Jean, je vous kiffe, vous êtes une sorte de croisade permanente pour la culture.
Figurez-vous qu'avec quelques confrères au Figaro, nous sommes très férus de Booba.
Jean d'Ormesson.
C'est le nom de mon groupe de musique qui s'appelle The Jean d'Ormesson Disco Suicide.
Mesdames et messieurs, Jean d'Ormesson, s'il vous plaît.
Je suis venu te féliciter.
Merci beaucoup.
De dire que j'étais fier de t'accompagner sur ton épaule. De te dire que tu vas avoir des succès considérables et que moi, je t'accompagnerai comme un petit oiseau, là, sur ton épaule.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, monsieur d'Ormesson, d'être venu à La Nouvelle Star.
Jean d'Ormesson adulé par la jeunesse, imité par des comiques, dragué par des jeunes filles. Jean d'Ormesson tatoué sur l'épaule d'un chanteur populaire, kiffé par la France entière. C'est une rockstar en fait.
Écoutez, Julien Doré à cette époque-là n'avait pas encore le succès énorme qu'il a maintenant.
Ah, mais vous avez été devin effectivement. Mais,
non, je vais porter chance peut-être, ou c'est lui qui m'a porté chance. Eh ben, tant mieux.
C'est lié à quoi ce statut d'icône populaire aujourd'hui à votre avis?
Ben, c'est presque un peu dangereux, vous savez.
Mais vous arrivez à vous l'expliquer, pourquoi on vous aime tant?
C'est un peu dangereux. Même Hollande m'a dit: comment faites-vous pour être si populaire?
Ah oui, ça c'est certain qu'il pourrait prendre des conseils sur vous. Vous savez, vous avez pu vous en servir de cette popularité, d'ailleurs je me suis posé la question, vous avez pu l'utiliser pour faire passer des choses, pour faire passer des messages?
Ben, j'espère que je ne me déshonore. Vous savez, être populaire, c'est quasiment déshonorant.
Ah bon ?
Et il faut essayer de faire passer. Mais comment ? Bien sûr. Vous ne vous rappelez pas Démosthène ? Naturellement, plus personne ne se rappelle Démosthène. Quand il était applaudi, il disait « Est-ce que j'ai dit une connerie ?» Vous savez, être applaudi, c'est très dangereux, c'est très mauvais. Au 19e siècle, qui est applaudi ? Mais Ponson du Terrail et Eugène Sue. À l'enterrement de Stendhal, il y a trois personnes. Il faut dire que l'une des trois, je crois, c'était Mérimée, et une autre personne qui adorait Stendhal, c'était Balzac. Ce qu'il faut, c'est choisir ceux qui vous aiment et ceux qu'on aime.
Moi, je vais vous dire, ça me fascine quand même, cette popularité. Qu'un homme qui ne cache rien de ses opinions ou de ses préférences politiques, qui appartient à l'élite sociale et culturelle de la nation, qu'un normalien, académicien qui habite à Neuilly, parvienne à transcender tous ces clivages, hein, politiques, générationnels, sociaux, ça me fascine. Être aimé de tous, ça n'a jamais été un objectif pour vous ? Être aimé, peut-être, tout simplement.
Je m'en veux peut-être un peu, dans ma jeunesse, d'avoir voulu plaire. J'ai évidemment essayé de plaire. Et ça, ça m'a passé maintenant. Ça m'a passé. Franchement, l'idée de plaire, c'est quelque chose... si vous voulez, si vous écrivez, un écrivain qui écrit, qui veut savoir ce qu'attendent ses lecteurs, est un écrivain perdu. Il ne faut absolument pas écrire pour un public. Si vous écrivez pour un public, vous écrivez des navets. Il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire. Tant mieux si ça plaît. Je ne méprise pas mes lecteurs, mais je n'écris pas pour eux.
Boomerang. Augustin Trapenard.
C'était le 1er octobre 2015, il y a 2 ans. Jean d'Ormesson, à ce micro, l'écrivain intellectuel et journaliste immortel qui nous a quittés cette nuit. Un clin d'œil, Fabrice Lucchini nous lit du Jean d'Ormesson.
Une grossièreté de langage était acceptable sous certaines conditions. Il était permis de dire merde, connard, mais interdit de prononcer des mots tels que mince, ou au plaisir. Bonjour, au contraire, bonsoir, merci, pardon était recommandé. Mais bon appétit ou bonne continuation était banni avec rigueur. Et à mon avis, il n'était pas de gauche. Nous prenions des petits déjeuners, nous déjeunions, nous goûtions, nous dînions, nous soupions, nous raffolions des raouts et des médianoches, nous croquions, nous chipotions, mais nous ne mangions jamais.
Mais c'est de qui ça ? C'est de Proust ?
Non, de Jean d'Ormesson. Oh mais Jean d'Ormesson, c'est juste génial. D'Ormesson, c'est juste du bonheur.
La langue si délicieuse de Jean d'Ormesson, lu ici par Fabrice Lucchini, émission spéciale, on le disait ce matin, parce que Jean d'Ormesson nous a quittés cette nuit. Et nous avons en direct au téléphone Catherine Fro, qui a partagé l'affiche avec Jean d'Ormesson dans les saveurs du palais de Christian Vincent en 2012. Bonjour Catherine Fro.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous répondre. Et qui était Jean d'Ormesson pour vous ?
Moi, je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Et je pense que c'était quelqu'un de... En tout cas, pour jouer dans les saveurs du palais, pour jouer le personnage de Mitterrand, j'ai compris que c'était quelqu'un qui était gourmand, drôle, et qui il jubilait de jouer Mitterrand, qui était quand même son adversaire politique depuis toujours. Donc c'était assez merveilleux de le voir aussi simple, aussi bienveillant, et le plaisir de travailler, de faire l'acteur pour la première fois, presque d'ailleurs.
C'était un acteur pour vous, Jean d'Ormesson ?
Oui et non, si vous voulez. C'était comme un enfant peut être un acteur et peut ne pas être un acteur. C'était vraiment, il y avait quelque chose, oui, d'assez enfantin, d'assez frais, d'assez on improvisait, on cherchait. Et c'était vraiment, franchement, c'était comme dans un cours de théâtre. J'ai beaucoup apprécié sa gentillesse, en fait. Voilà.
Quel partenaire de jeu est-ce que c'était pour vous ? Vous vous souvenez précisément d'une scène, peut-être, dans les saveurs du palais ?
Oh, c'était de se retrouver, cette cuisinière, cette femme simple, qui se retrouve face au président de la République, et le président, qui était Mitterrand à l'époque, incarné par d'Ormesson, on y croyait totalement. J'y croyais totalement. J'avais la même impression. Je veux dire, ça dépassait le jeu. C'était drôle. Drôle, son œil, sa faconde, sa manière de parler, son langage, quelque chose un son presque un peu ancien. D'une France ancienne. voyez, moi je me rappelais que chez ma grand-mère, il y avait déjà les livres de Dormesson. Chez mes grands-parents, après chez mes parents, il y avait encore les livres de Dormesson. C'était toute la grande période de la droite française. Et après, quand il s'est dégagé de la politique, j'ai trouvé qu'il rajeunissait, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a rajeuni en vieillissant.
C'était quand même un écrivain extrêmement populaire. Vous êtes aussi une actrice très populaire, Catherine Froid. À quoi ça tenait chez lui? Comment vous expliquez qu'il plaise à tout le monde, les gens de droite comme les gens de gauche, les gens qui aimaient la littérature comme ceux qui ne l'aimaient pas?
Oui, j'ai entendu d'ailleurs juste avant, il y a un interview de lui qui dit que la popularité, il dit que c'est dangereux. ça m'a étonnée, j'ai écouté ça, je me suis dit. Et oui, peut-être. Oh non, mais l'idée, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, ce qu'on fait, on le fait d'abord pour soi. Et pas forcément pour le public, mais on le fait pour soi comme si on était le public. Je sais pas, j'ai vu qu'il pouvait pas répondre complètement à cette question. Et je comprends, hein. On est ce qu'on est.
Merci infiniment, Catherine Froid, pour cette réaction. Catherine Froid, qui, je le rappelle, avait partagé avec Jean d'Ormesson l'affiche du film Les Saveurs du Palais de Christian Vincent en 2012. On va se retrouver entouré d'autres témoins de Jean d'Ormesson pour l'évoquer encore et encore ce matin dans une émission spéciale de Boomerang, juste après ça.
Just a steal.
Lee Fields and the Expressions Time sur France Inter Boomerang. Ce matin, émission spéciale en hommage à Jean d'Ormesson et nous accueillons en direct au téléphone à ce micro Laurent Delahousse, le présentateur des journalistes des JT de France 2 qui connaît bien Jean d'Ormesson pour avoir tourné avec lui et avoir été avec lui toute l'année passée. Bonjour Laurent Delahousse.
Bonjour Augustin.
Quel est votre état ce matin, vous qui connaissiez si bien et qui avez passé tant de temps avec Jean d'Ormesson cette dernière année?
C'est comme tous les gens qu'on aime, on finit par croire qu'ils partiront jamais. Et excusez-moi, c'est un peu...
Je vous en prie.
Écoutez, voilà, c'est... moi j'ai passé 11 ans de ma vie à croiser cet homme qui m'a nourri, rendu plus intelligent. Là, ça fait un an et demi qu'on parlait, qu'on discutait. Donc, il m'avait accordé de le suivre, de le rencontrer, de parler, pour faire ce long entretien qui est devenu un documentaire, qui est devenu quelque chose qui est juste un chemin de vie pour moi et un peu pour lui, parce qu'il avait envie de parler, de raconter certaines choses. Donc voilà, bien sûr que c'est toujours bouleversant. Je l'ai vu vendredi dernier, parce qu'on se donnait des rendez-vous comme ça, et que ça faisait quelque temps, enfin 10 jours, qu'il avait été un petit peu fatigué.
Qu'est-ce qu'il vous disait vendredi dernier?
Et puis, ouais, il était très bien, il était chez lui, dans ce canapé, il était beau, il avait un col roulé Bordeaux, une élégance que plus personne ne pourrait avoir, je crois, des chaussures raccord avec le col roulé, dans ce canapé hors du temps, dans ce salon, ce boudoir qui est chez lui, à Neuilly, et on a beaucoup parlé. C'est assez surprenant parce que on a fini ce film et j'avais envie d'avoir quelques petites choses encore, mais surtout je pense qu'il avait envie de me voir et j'avais envie de le voir, voilà.
Que devait raconter ce film, Laurent Delahousse? De quoi devait-il parler?
Il devait raconter ce qui est parfois inaccessible pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que lui avait un chemin de vie qui était une quête qu'on a tous probablement un peu, le bonheur, la sérénité face à la mort, l'intelligence heureuse, le don, finalement, cette intelligence, il y en a qui la gardent pour soi, lui, il avait une forme de générosité permanente avec ça. Il avait besoin de la partager, de la transmettre, et puis il avait cette lucidité de savoir qu'il avait été béni des dieux, parce qu'il a eu, comme il l'a toujours dit, une vie en première classe. Il a réussi à se l'octroyer, cette vie en première classe. C'était quelque chose d'incroyable.
Et qu'est-ce que vous avez découvert de lui au cours de cette année et demie de préparation, vous qui l'avez tant côtoyé?
Que le chemin qu'il a fait ces derniers temps, puisqu'il se savait fragile, était de plus en plus serein. Était de plus en plus serein, même s'il y a bien évidemment toujours des doutes sur l'après. Mais et puis que... Il avait ce questionnement quand même sur l'écriture et sur la littérature. Il se disait hermétique aux critiques, à un certain nombre de choses. Il était bien évidemment pas hermétique aux critiques. Il avait ce regard sur son écriture, sur le fait qu'il avait cette idée de ne pas avoir écrit un grand livre et que là, finalement, son œuvre littéraire, la collection de ses livres, formait un grand livre.
On avait tous l'impression de le connaître, en fait, de l'avoir connu aussi, tellement il fait partie de notre patrimoine et de presque notre inconscient collectif, Jean d'Ormesson, Laurent Delahousse. Y avait-il des Jean d'Ormesson qu'on ne connaissait pas?
Beaucoup, je crois, beaucoup, parce qu'il avait un questionnement sur un certain nombre de choses qui ne livrait pas toujours. C'est un personnage plus complexe qu'on ne le croit, c'est un personnage parfois plus sombre qu'on ne le croit. Il a un côté très solaire, bien évidemment, il nous a apporté ça, puis c'est la deuxième partie de sa vie, la première partie de sa vie, on en parlait encore vendredi, ça a été un sacré réac. Ça a été quelqu'un qui avait... Il a effectué une mue et il incarne forcément pour nous tous un âge qui avançait et qui était heureux et qui était tellement solaire et une quête du bonheur permanente, et puis il était heureux, il avait cette force, cette chance par rapport à nous tous. Donc forcément avec lui, c'est d'abord c'est un siècle qui se tourne,
oui.
C'est une aristocratie qui périclite quand même quoi qu'il en soit, parce qu'elle était fantasque. Il faut se souvenir que Jean d'Ormesson dans les années 70-80, c'était une forme de grande bellezza. Il y avait quelque chose d'assez formidable dans tout ça et d'assez solaire. Et puis c'était un homme qui se préparait à l'après, le cliché de l'immortel était très lié à lui, parce qu'on pensait qu'il ne partirait jamais. Il incarne une certaine France aussi, et il incarne aussi ce rapprochement de plusieurs Frances, parce qu'effectivement, l'aristocratie, oui, ce conservatisme, cet homme de droite, tout le monde ne vit pas dans un hôtel particulier à nuit, est capable d'aller parler avec Jean-Luc Mélenchon, avec Hélène Carré-Dancausse en même temps, avec tant de gens. Donc il était un trait d'union intellectuelle entre des mondes qui n'ont plus tendance à pouvoir se parler. Aujourd'hui, on sait très bien que le milieu intellectuel français, qui a une fâcheuse tendance à s'être droitisé, même lui, il disait, c'est dingue, j'étais le mec le plus à droite, on le disait encore vendredi, j'étais le mec le plus à droite il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je me vois gauchiste dans le milieu intellectuel, quoi. Après. Et donc, c'était quand même assez savoureux de l'entendre dire ça encore vendredi. Non, j'ai vécu un moment particulier, vendredi, qui est, moi, je le connais depuis 11 ans à peu près, et puis on s'est écrit, il m'a écrit beaucoup de choses, et puis là, depuis un an et demi, deux ans, c'est vrai que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec lui, et il m'a demandé vendredi, j'en parle parce que c'est tellement symbolique, quoi. Il m'a demandé il m'a dit on va se tutoyer quand même. Il m'a demandé ça vendredi, donc voilà, et j'ai pas pu, et parce que j'ai pas pu. Merci de m'avoir appelé.
Merci beaucoup d'avoir répondu, Laurent Delahousse. Votre film, on le verra bientôt.
Je sais pas, j'espère en tout cas, oui bien sûr, j'espère qu'on le verra, bien sûr.
Laurent Delahousse au micro de Boomerang ce matin pour cette émission spéciale en hommage à Jean d'Ormesson, et toujours au téléphone, un mot peut-être de Frédéric Becbédé. Allô Frédéric ?
Oui, allô Augustin.
Merci d'être là. Merci de nous répondre. Oui. Évidemment, j'ai envie de vous entendre. Peut-être un souvenir avec Jean d'Ormesson, vous qui l'avez croisé et qui partageait quand même avec lui ce goût pour le bon mot, pour l'humour, pour la littérature.
Oui. Je pense, depuis ce matin, à un truc qu'il a dit, je crois, à Jean-Paul Antoven en vacances en Corse. Il se baignait à poil dans une eau translucide, merveilleuse, et d'Ormesson a dit mourir pour quand on a eu une vie de merde, c'est un soulagement, mais mourir quand on a eu ma vie à moi, c'est la double peine.
Vous avez souvent été interviewé.
Ce qui me plaisait, c'est la légèreté. Est-ce qu'il y aura encore des écrivains aussi légers, capables d'autant d'humour et d'autodérision? Une autre anecdote, il y a 25 ans, j'avais publié un de mes premiers romans et on avait fait un dîner avec des copains, il y avait notamment Bernard-Henri Lévy, Marc Lambron, enfin des gens comme ça. Et alors on décide d'aller chanter, je sais pas pourquoi, d'aller chanter l'International à Neuilly-sur-Seine devant la maison de Jean d'Ormesson. Il devait être 1h du matin. Donc on est là, bourré, et on chante l'International très fort. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain et tout ça. Et puis, il ouvre la fenêtre et il connaissait les deux couplets suivants. chose que je ne peux pas vous les chanter, moi, je ne connais pas les paroles. Hein. Donc, voilà, c'est des histoires comme ça dont j'ai envie de me souvenir, évidemment, ce matin.
En quoi, pour vous, est-ce qu'il était un homme de son temps, Frédéric Becbédé, Jean d'Ormesson? Qu'est-ce qu'il faisait
L'appétit, la curiosité, c'est ça qui fait qu'on finalement vieillit pas quand on est tout le temps ouvert aux autres, que tout vous amuse. Il voyageait beaucoup, il avait toujours envie de tout connaître, de tout savoir. C'est quelqu'un qui a aidé aussi des jeunes auteurs. J'ai eu la chance, moi, de le rencontrer, mais je me souviens aussi quand Yann Moix a publié son premier roman, il a été un soutien fervent. Il a beaucoup lu les jeunes, et ça, c'est pas mal. Tous les académiciens ne le font pas. Et puis c'est aussi... attention, parce que là, j'écoutais un peu l'émission et on parle beaucoup de l'homme, mais c'est quelqu'un qui est obsédé par l'écriture.
Et alors justement, s'il fallait retenir un livre de Jean d'Ormesson, votre préféré, Frédéric Becbédé?
Moi, j'ai un faible pour la partie plus frivole et plus autobiographique, c'est-à-dire par exemple des livres comme Le Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée, oui, ou Au revoir et merci. C'est les livres où il parle de son enfance, sa famille, son milieu, et puis où il fait des digressions, où il écrit un peu comme son frère ennemi Bernard Franck. Il y a beaucoup d'esprit et c'est très personnel. Voilà, ça se lit facilement. Il a aussi, c'est vrai, été très sérieux et souvent d'ailleurs, on voyait une grande différence entre l'homme et l'œuvre. On avait l'impression que les livres étaient plus sérieux que l'homme.
Oui.
Et je pense, parce que je sais qu'il a souvent dit ça, mais que c'est à partir d'aujourd'hui que sa carrière d'écrivain, elle commence. C'est-à-dire que c'est à partir de ce matin qu'on va vraiment juger Jean sur les livres uniquement. Il sera plus là pour nous faire rigoler. Et donc c'est maintenant que le jugement importe. Donc est-ce que ça va être les livres légers ou les livres globaux où il essaie de résumer le monde dans sa totalité? On verra, mais c'est un jour important dans l'histoire littéraire de cet homme-là.
Quelle belle façon, en tout cas, Frédéric, de terminer cette émission et de nous dire que tout commence maintenant pour l'œuvre de Jean d'Ormesson. Merci infiniment, Frédéric, d'avoir répondu à nos questions et merci à vous, auditeurs de France Inter, d'avoir écouté cette émission spéciale qu'on a improvisée ce matin à la gloire et en hommage à cet homme si important pour le journaliste que j'étais et pour tous les Français que nous sommes, je crois. Quel que soit ce qu'on en pensait, il restera toujours comme un monument, ce qui est justement sur Immortel, Dominica.
Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous nos faces avinées? Tous les baisers